Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Il y a une crise économique en cours qui est majeure, avec des millions de gens qui vont basculer dans la pauvreté, qui ont besoin d'être soutenus pour pouvoir accéder à la santé, qui vont avoir besoin d'avoir un accès par exemple au chômage alors que les économies s'arrêtent. Le CCLD Terre Solidaire, avec plus de 200 organisations dans le monde, de plusieurs régions d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, appelle à un jubilé de la dette pour 2020. La vie doit passer avant le remboursement de la dette.
Derrière la pandémie du Covid-19 se cache une pandémie de la faim. Selon les estimations du Programme alimentaire mondial, le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire aiguë dans le monde devrait doubler à cause du coronavirus et atteindre 250 millions d'humains d'ici la fin 2020. Face à la pandémie, le CCFD Terre Solidaire est plus que jamais mobilisé aux côtés de ses partenaires. Que nous disent-ils de cette crise sanitaire et de ses impacts ? Comment peuvent-ils poursuivre leur mission ? De l'Afrique à l'Amérique latine, en passant par l'Asie du Sud-Est, Françoise Laborde et Jacques Millot, membres du CCFD Haute-Garonne, témoignent, en lien avec les partenaires locaux. Crise sanitaire, récession économique, crise alimentaire, tout est lié. Jacques Millot.
Tout à fait. Oui, pour une raison qui, aujourd'hui, on comprend très très bien depuis le jour du confinement, qui s'est échelonné dans quelques jours, mais assez rapidement, dans le monde entier. Très vite, ça a commencé plutôt par l'Europe, mais ça s'est très vite généralisé en Amérique, en Afrique, en Amérique du Sud en particulier. Je parle surtout des pays où on a des partenaires, hein. C'est essentiellement l'Afrique et l'Amérique du Sud, et un peu aussi, moins, mais un peu quand même de façon importante en Asie du Sud-Est. Le problème qui s'est posé immédiatement, c'est devant la fermeture de toutes le confinement, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le confinement des activités économiques, hein, au sens large, tout de suite s'est posé le problème pour tous les pauvres, et en particulier les communautés paysannes de ces pays-là où nous avons beaucoup de partenaires, de dire mais quelles vont être la façon pour eux d'écouler leurs produits. Aujourd'hui, on a des stocks, ce qui est complètement paradoxal. Je vois les exemples que cite l'article du Monde, auquel d'ailleurs le CCFD a participé à Paris. Je prends deux exemples parce qu'ils sont très démonstratifs. Les cultivateurs de pommes de terre en Guinée qui voient leur récolte pourrir dans les hangars. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas les vendre. Ils ne peuvent plus aller les vendre en ville. Et c'est pour eux, c'est la double peine, voire la triple peine. Ils perdent leurs revenus. Ils n'ont plus le droit de se déplacer. Ils ne vont pas pouvoir gagner d'argent. Et chance pour eux, entre guillemets, l'Afrique est très très peu touchée, c'est les chiffres de l'OMS hein, et de la FAO, est très peu touchée par chance par le coronavirus. Donc il y a très peu de morts aujourd'hui, il y en a 10 fois, 50 fois moins qu'en Europe par exemple, ou qu'en Amérique du Nord. Donc ça c'est une chance. Mais le problème c'est que du coup, n'ayant plus de ressources, ils ne peuvent pas avoir le minimum d'argent nécessaire à la fois pour acheter des produits de première nécessité qu'eux ne fabriquent pas, ne produisent pas, mais en plus... Comme ils ne peuvent pas vendre, ils sont là avec de la nourriture qui est surabondante et qui ne peuvent pas écouler.
Alors que dans les villes, au contraire, il y a
des besoins. Ce qui est un paradoxe absolu, quoi. Et ça, c'est le cas de nombreux pays d'Afrique. Je regardais là, il y a quelques minutes, ce que nous dit Samuel Pomeré au Nord Kivu, au Congo. C'est pareil, c'est des associations de femmes qu'on soutient depuis des années. Elles produisent. Et du coup, ça les a fait réfléchir beaucoup en disant, mais nous, on a les moyens de produire notre propre nourriture, nous-mêmes, localement, dans des circuits extrêmement courts, et on est capable de se passer de produits importés qui finalement nous détruisent notre propre économie et notre propre agriculture.
À travers le Nord Kivu, Ouaki a mis en place des comités paysans de plaidoyer.
Samuel Pomeré, au sujet de l'association Ouaki. Un son retransmis à partir d'une vidéo visible sur le site du CCFT.
Ces comités paysans, en fait, font le monitoring des difficultés, des violations des droits des femmes paysannes à travers les différents territoires. C'est extrêmement important parce qu'on sait aussi que ces femmes sont particulièrement vulnérables en temps de crise aux différents abus, notamment de la part des autorités. Ces abus, ça peut être un déni d'accès aux marchés locaux, ça peut être des taxes illégales, etc. ou à qui continue à faire ce travail de monitoring grâce aux moyens de télécommunication, Internet, etc., etc. C'est aussi un moyen de continuer la lutte pour les droits des femmes paysannes et que cette crise sanitaire ne devienne pas non plus une crise des droits humains pour les femmes paysannes du Nord Kivu.
Dans un article du Monde du 12 mai dernier, auquel Jacques Millot fera souvent référence lors de cette interview, les différents intervenants, dont Valentin Brochard, responsable du plaidoyer pour CCFD Terres Solidaires, nous interpellent. La faim ne sera pas la seule conséquence de la pandémie. La récession va durablement affecter les régimes des plus vulnérables, faisant croître une hausse des pathologies liées à l'alimentation. Jacques Millot.
L'article du Monde, tous les exemples qu'ils prennent dans différents pays, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, montrent bien que le problème du coronavirus, ce n'est pas le problème, sauf en Amérique latine, mais en Afrique, ce n'est pas du tout le cas.
C'est les conséquences
à moyen et long terme qui vont être catastrophiques parce qu'on prépare ce qui n'est déjà pas glorieux avant l'épidémie. Aujourd'hui, la crise alimentaire risque d'être une catastrophe. Il faut savoir que dans des pays comme l'Inde, la moitié de la population, je ne sais pas si les gens se rendent compte, ça fait 500 millions, 600 millions de personnes, sont des paysans qui crèvent la faim. Ce qui est le paradoxe absolu. Dire que des gens paysans qui produisent la propre nourriture des gens des villes n'ont pas de ressources pour acheter le minimum vital en dehors de ce qu'ils produisent. Mais personne n'en parle de ça. Personne. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Donc je pense que là, on est à l'aube. Alors, j'espère me tromper, hein, le plus profondément du monde. Mais on est à l'aube d'une crise sanitaire sans précédent. Et le nombre de morts du coronavirus apparaîtra dans 6 mois, dans 1 an, comme une espèce d'épiphénomène. Oui, je dis minime, vraiment minime, vraiment minime. Alors, je ne parle pas, dans l'article du Monde, il détaille les retards de croissance chez les enfants, le nombre d'enfants mal nourris, enfin, qui existaient déjà. Hein, ça n'a rien de nouveau, tout ça. Mais ça s'amplifie de façon dramatique dans énormément de pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Hein. Je parle de l'Inde, mais on pourrait aussi parler d'autres pays, du Laos, du Cambodge, etc., etc., de l'Indonésie, des Philippines. Enfin, la liste est longue. La liste est longue.
La pandémie du Covid-19 et ses répercussions mondiales risquent donc d'engendrer une des pires crises alimentaires que le monde ait connues depuis les émeutes de la faim de 2007-2008. Le CCFD tire les sonnettes d'alarme. Françoise Laborde.
Alors ces alarmes, elles sont ancrées déjà dans des alarmes antérieures qui sont liées au réchauffement climatique, qui sont liées aux conflits. Les pays du Sud sont déjà des pays souvent en fragilité. Bon, peut-être pas le Brésil qui a un profil différent, mais ce sont quand même souvent déjà des pays fragilisés par un certain nombre de facteurs. Et la crise du Covid-19 aggrave ces facteurs puisqu'elle a bloqué l'économie pendant toute une période. Et donc tout le secteur de l'économie informelle s'est arrêté. Donc les gens, ils n'ont pas de réserve financière. Au bout de 2 jours, ils n'ont plus rien à manger. Et donc c'est absolument dramatique, en particulier dans les villes, hein, où les gens sont entassés et n'ont plus leur petit boulot de subsistance quotidienne. Alors il y a ça, et puis après il y a l'après-crise, parce que l'économie va être énormément impactée, et donc on ne sait pas comment ça va redémarrer. Alors, ce qui est important au CCFD, c'est qu'effectivement, on lance un cri d'alarme par rapport à ça, aussi par rapport aux droits humains, puisqu'on a constaté donc dans différents pays que certains gouvernements en profitaient en mettant couvre-feu, interdiction de bouger, pour
les libertés qui sont rognées.
Voilà, pour contrôler un peu plus les opposants. Bon. Il y a un président qui a dit qu'il fallait tirer sur n'importe quelle personne au Sri Lanka. Voilà. Il fallait tirer sur les personnes qui ne respectaient pas le confinement. Bon. Après, les couvre-feux, c'est pareil, ça bloque les populations. Alors, il y a le non-respect des droits humains qui joue. Il y a des inquiétudes au niveau de la santé, puisqu'il y a un chargé de mission qui disait aussi que en Amérique latine, les populations indigènes pouvaient être plus fragilisées à un virus comme celui-là, parce que elles n'ont pas les mêmes gènes ou la même immunité que nous, et donc elles sont à risque plus que nous. Bon.
Des propos appuyés par Isabelle Maninben, responsable des partenaires Afrique. Là encore, un son retransmis à partir d'une vidéo visible sur le site du CCFD.
On craint vraiment un recul de la démocratie, un recul qu'on observait déjà avant la pandémie. Les manifestations sont interdites dans la majorité des pays. On voit par exemple en Guinée que les arrestations se poursuivent de ceux qui se sont opposés à la modification de la constitution en Guinée. Ce que l'on craint, c'est que l'attention de la communauté internationale se détourne de ces crises politiques, puisque tout le monde est très orienté sur les impacts sanitaires de la pandémie, alors que ces crises politiques, bien entendu, n'ont pas trouvé de solution et risquent même d'être exacerbées.
Cette crise dramatique pourrait-elle donc faire craindre une explosion sociale, ces émeutes de la faim dont nous venons de parler ? Dans ces pays en proie à un état permanent de souffrance nutritionnelle, vivant dans des zones de conflit, de dérèglement climatique ou de crise économique, Jacques Millot.
Il y avait eu en 2008, là, lors de la précédente crise financière, des émeutes de la faim dans pas mal de pays africains, justement parce que les grandes sociétés multinationales de grains, je pense en particulier à des sociétés françaises, mais pas que, qui sont absolument pas connus du grand public, hein, je pense à Dreyfus en particulier, qui ont spéculé sur les matières premières, c'est-à-dire le riz, le blé, le maïs, ces trois cultures-là nourrissent l'humanité, hein, je rappelle en passant quand même, parce que les gens ne savent pas ça. Et donc ils ont spéculé sur ces matières premières, considérées comme des matières premières, comme du pétrole, comme du fer, comme du cuivre, comme je sais pas quoi, moi. Et on a vu ce que ça a donné, quoi. Les émeutes de la faim sont nées de là, quoi, parce que les prix se sont envolés par des spéculateurs qui n'ont rien à faire du problème de la nourriture des humains, quoi. Enfin, c'est pas leur problème. C'est de gagner de l'argent, point final. Bon, ça s'est calmé, heureusement, parce qu'il y avait eu des bonnes récoltes dans les années qui ont suivi, peut-être. Mais ce qui est encore le cas aujourd'hui, hein. Là, dans les stocks, je le disais au début, là, dans les stocks de nourriture aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'offre. C'est un problème de demande. L'offre, elle est là, elle est disponible du jour au lendemain.
Il y a de quoi nourrir.
Il y a de quoi nourrir largement, mais largement. C'est pas un problème de quantité. Après, c'est un problème de qualité, ça c'est vrai. L'exemple qui est cité.
De redistribution.
De redistribution, puis
de
type de nourriture qu'on favorise, surtout dans les cultures industrielles. Je pense à l'exemple dans l'article du Monde qui est cité sur l'Inde, qui est peut-être un des pays qui vivra la plus grande crise alimentaire dans les semaines et les mois qui viennent. Mais c'est la révolution agraire des années 70 a créé une faillite aujourd'hui du modèle agricole indien, quoi. En faisant croire aux gens qu'en mettant beaucoup d'engrais et de pesticides, on allait augmenter. Ce qui a été vrai, hein, ce qui a été vrai. La quantité de nourriture, sauf qu'on ne produit plus que du riz et du blé. Et c'est des choses à bas coût et qui ne sont pas suffisants pour nourrir raisonnablement et physiologiquement un humain. Il faut des fruits, il faut des légumes, il faut des légumineuses. Tout ça, qui en parle, enfin, qui en parle, qui en parle? Personne.
Une crise qui met en lumière les limites et les risques de la mondialisation. Françoise Laborde.
Au CCFD, on tire toujours la sonnette d'alarme quand il le faut, mais en même temps, on essaie de donner de l'espoir. Et c'est aussi ce que disait un peu Isabelle Manimben dans certains de ses messages, c'est une de nos chargées de mission du siège, c'est que il y a eu obligatoirement des réactions. Les gens se sont organisés différemment. En Afrique, donc des banques de semences ont fait comprendre que il fallait travailler au niveau local et essayer de se débrouiller autrement sans faire venir de l'alimentation d'ailleurs pour avoir plus d'autonomie. Il va y avoir des aspects positifs parce que ça va quand même faire bouger les choses dans le sens que nous souhaitions. Maintenant,
C'est-à-dire
un sens qui respecte les gens dans leur dignité, dans leur capacité d'agir sans être aidés de manière artificielle. On dit on va aider, on va envoyer des cultures OGM, on va envoyer des choses qui vont nourrir la planète, mais sans donner place aux gens, en envoyant des produits de l'étranger qui là n'arrivent pas, puisqu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de... Bon, donc on fragilise avec ce système économique importé sans cesse avec des mouvements nord-sud plutôt que sud-nord, enfin il y a les deux puisqu'il y a les cultures de rente, on fragilise les populations locales. Et voilà, donc c'est tout un ensemble de...
Cette dépendance, quoi.
Voilà, cette dépendance, il faut que l'écologie, l'agriculture deviennent plus autonomes, qu'elles fonctionnent de manière avec... C'est un peu ce que faisaient nos anciens, d'une certaine manière, avec des progrès qu'ont fait évidemment les semences, mais pas de manière artificielle, pour que eh bien, les gens puissent se nourrir en local de manière digne et puis efficace. Parce que, voilà, si on attend sa nourriture d'ailleurs, en cas de crise, il y a un gros problème, même ici.
Oui, cette crise sanitaire a vraiment mis en lumière toutes les failles, toutes les limites de la mondialisation.
Oui, voilà, c'est ça. La mondialisation comporte beaucoup de risques. Effectivement, c'est peut-être une chance d'échange, mais les échanges, ils se font pas de manière égalitaire. C'est malheureusement les pays du Nord qui ont encore la mainmise sur l'économie globale et sur l'agriculture et qui ont tendance à vouloir promouvoir leur modèle d'agriculture, qui est une agriculture intensive, une agriculture avec encore pas mal de pesticides malgré les efforts et l'évolution. Et puis, il y a aussi toujours ce risque d'évolution vers des OGM, des choses de plus en plus artificielles et dont on ne sait pas le danger pour nous. C'est un moyen artificiel de nourrir la population, c'est pas celui auquel croit le CCFD et les partenaires nous ont mis en garde depuis bien longtemps. Hein. On a le mouvement au Brésil, le mouvement de la terre, la pastorale de la terre, là, qui est très très vigilante sur toutes ces questions, ou alors l'autre grosse association agricole internationale, là, c'est... Il y a un danger à s'appuyer sur ces choses-là.
Oui, quel est le poids justement de ces partenaires-là sur le plan local? Ils ont un poids, ils ont une action, ils ont un rayonnement?
Oui, alors c'est variable selon leur importance. Hein. Il y a des partenaires qui peuvent être des petites associations, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont des associations importantes, pas seulement au niveau local, mais au niveau de leur région. Et il y en a un certain nombre qui sont en fédération nationale, voire même au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Amérique latine. Bon, je me souviens de partenaires avec lesquels on a travaillé pour la question des paradis fiscaux. Il y avait donc des plateformes là d'Amérique latine et d'Afrique qui étaient présentes lorsqu'on avait eu l'Alter Sommet à Cannes il y a quelques années. Et ce sont des associations qui ont du poids, hein, le Via Campesina, qui est aussi soutenu par le CCD, c'est une très grosse ONG. Alors après, effectivement, des petites associations qui font un travail au niveau local, mais souvent un travail formidable. Le partenaire du Togo qu'on a accueilli pour un Alternatiba à Toulouse il n'y a pas bien longtemps, c'était une association qui travaillait aussi pour l'alimentation et qui avait donc développé de l'agroécologie, parce qu'on n'en parle pas, mais en Afrique, on a de plus en plus de développement de cette forme d'agriculture. Et le CCFD appuie tout un réseau de partenaires sur cette thématique-là dans les trois continents. Et donc ce partenaire, il était extraordinaire parce qu'il montrait que ça s'appelait MAPTO, cette association, et qu'ils avaient changé la vie des paysans. Ils étaient 7 paysans au départ, et là ils étaient des centaines dans tout le pays, et ils avaient obtenu des changements même dans la loi. Ils avaient créé aussi un bol, ils appelaient ça le bol MAPTO, parce que quand ils arrivaient sur les marchés, pour ne pas se faire avoir par le marchand dont la pesée était plus ou moins louche, mais ils amenaient leur bol et puis là ils étaient sûrs que la pesée était correcte. Enfin, ils ont une créativité puis un enthousiasme qui nous porte tout à fait.
Et l'après, parce que là dans cette thème on parlait de l'après.
Moi, l'après, je sais pas, parce que on entend nos chers politiques faire des beaux discours. J'entendais encore ce matin Bruno Le Maire, là, notre ministre des Finances. Moi, je suis confondu. On nous dit il faut lier à la fois la relocalisation de l'agriculture. Je parle pas de l'industrie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'agriculture, la nourriture des hommes, localement. Et donc, redévelopper des cultures qu'on a abandonnées pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis en même temps, il dit il faut décarboner l'économie. Alors très bien, donc limiter les transports, faire cultiver local, produire local, consommer local. Tout ça, ça va très bien. Et puis il dit, 30 secondes après, il dit il faut redévelopper la croissance et pour rembourser la dette qu'on va avoir des emprunts que l'État distribue comme ça, comme si l'argent tombait du ciel. Et le seul moyen de sortir pour rembourser la dette, ça sera de faire de la croissance. Alors là, les bras m'en tombent, je dis, c'est totalement incohérent, quoi. On sait qu'aujourd'hui, la croissance est terminée, elle n'existera plus, et tous les économistes le disent. On ne peut pas continuer comme ça, c'est suicidaire, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Revendre des voitures, où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? Évidemment que l'industrie automobile est en crise, tout le monde le sait depuis des années. Mais voilà, il faut relancer la croissance. Encore une fois, on marche sur la tête. Encore une fois. Donc l'après, moi, je ne sais pas ce qui sera. Personne ne le sait. Mais je ne suis pas très, très optimiste. Sauf à ce que les gens comprennent enfin qu'il faut changer de style de vie, quoi.
Et pourtant, beaucoup aujourd'hui s'accordent à dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Mais cet après, quel sera-t-il? Un retour à l'avant ou un saut dans l'inconnu? Une entrée dans un autre monde réellement et profondément renouvelé? Pour le CCFD, il faudrait commencer par s'interroger sur les valeurs sur lesquelles nous souhaitons fonder ce renouvellement. Françoise Laborde.
Alors c'est donc Sylvie Bucaré de Pontoise, qui est notre présidente actuelle, qui a été auparavant présidente de l'ACAT et de la Fédération internationale des ACAT, donc qui nous invite à nous orienter un peu sur la question du bien commun, celle que le pape nous recommande sans cesse, et celle que le CCFD défend depuis toujours, fort de son expérience. Donc elle essaie, avec le CA du CCFD, ils ont édicté un certain nombre de valeurs communes que les citoyens et les États devraient s'engager à suivre. Alors il y en a 7, chiffres bibliques. Le premier, c'est travailler pour la justice au nom de la dignité de tout être humain. Le second, c'est retrouver l'harmonie entre l'humanité et la nature, qu'on ne soit pas propriétaire de la nature, mais qu'on en devienne le gardien pour les générations futures. C'est la mission que nous a confiée Dieu dans le jardin d'Éden. Ensuite, le troisième, c'est donner la priorité aux plus pauvres parce que ce sont les premiers qui souffrent des crises, des guerres, du réchauffement climatique. Parce qu'il faut qu'ils puissent devenir acteurs dans leur société. C'est ça qu'on voit avec les partenaires du CCFD. Ils partent de rien, parfois, un tout petit groupe, et ils deviennent des acteurs qui ont du poids. Le quatrième, c'est reconnaître la destination universelle des biens pour œuvrer au bien commun, pour que la gestion des ressources naturelles soit vraiment partagée. Le troisième, c'est défendre le respect des droits humains, mettre les ressources naturelles, la science, les techniques au service des besoins fondamentaux de l'humanité. On a vu qu'il y avait des problèmes même chez nous sur ce plan-là. Le sixième, c'est favoriser la participation, l'engagement et l'organisation des citoyens. Voilà, on est appelé aussi à s'engager nous-mêmes pour la transformation sociale. Et le septième, faire vivre à tout niveau la subsidiarité, laisser toute son autonomie à la société civile. C'est-à-dire toujours faire descendre la possibilité d'efficacité jusqu'au réseau le plus bas. Hein, parce que chacun a ses capacités, il faut faire appel aux capacités de chacun. Puis après, ça va remonter.
À sa place.
Voilà, en fonction des richesses de chacun. Voilà ce que nous recommande le CCFD. Et donc, il lance un appel autour de ces principes à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Voilà, pour faire le choix de la solidarité internationale et de l'écologie intégrale, comme nous dit le pape.
La pandémie générée par le coronavirus Covid-19 n'est pas le fruit du hasard, mais de ce que l'homme a fait de la planète et des relations qu'il a tissées avec elle et avec ses semblables. Elle nous amène à nous interroger sur notre productivisme, sur notre exploitation des ressources naturelles, sur la protection de l'environnement et de la biodiversité, sur nos modes de consommation, sur la gestion et le partage des biens communs. Elle nous interpelle sur le sens que nous donnons aux biens communs, sur le mode de coopération internationale qui peut construire des solidarités. C'est à ce questionnement que le CCFD Terre Solidaire, dont je suis aujourd'hui la présidente, souhaite contribuer en s'appuyant sur son histoire et son expérience, nous dit Sylvie Boucari de Pontoise, présidente du CCFD Terre Solidaire. En effet, depuis son origine, le CCFD Terre Solidaire a trouvé ses valeurs et ses principes dans la foi chrétienne et dans la pensée sociale de l'Église. De l'encyclique Populorum Progressio, qui promeut le développement de tout l'homme et de tous les hommes, jusqu'à l'encyclique Laudato Si, qui invite à une conversion écologique, englobant de manière systémique le développement de l'homme, la relation à la terre et aux autres et à Dieu, l'appel est le même, rajoute-t-elle. Écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres, et mettre en œuvre une approche intégrale pour combattre la pauvreté, rendre la dignité aux exclus et simultanément préserver la nature. Ces mots de Sylvie Boucari de Pontoise, vous les retrouverez sur le site du CCFD, ainsi qu'une multitude de dossiers et de vidéos, de tribunes et de billets d'humeur.